Bonsoir à tous et bienvenue sur le cours de F6KGL. Ce soir, nous allons voir le chapitre 4, la première partie du chapitre 4, et on va parler des décibels et des circuits RC, donc résistance condensateur. Alors, on va commencer déjà par le décibel. On les a un petit peu évoqués essentiellement dans la partie réglementation d'ailleurs, mais on a un petit peu évoqué ça dans les séances précédentes sans trop rentrer dans les détails. Le décibel, c'est une unité qui va permettre d'exprimer un rapport entre deux unités de même nature. Et quand on parle d'unité, en l'occurrence, nous, dans le monde de la radio, ça va être de la puissance. C'est-à-dire qu'on va faire le rapport entre la puissance de sortie et la puissance d'entrée. Donc ici, j'ai un amplificateur, la puissance de sortie, la puissance d'entrée, et donc quand je fais le rapport sortie divisé par entrée, ça va me donner un rapport, et ce rapport de puissance, je peux l'exprimer aussi en décibels. Alors décibels, ça vient du nom de Monsieur Bell, que je vous ai mis ici, donc Alexandre Graham Bell, qui est l'un... Alors il n'a pas du tout bossé sur la radio, lui. Il a bossé, vous connaissez son nom sûrement, il a bossé sur le téléphone, puisque c'est lui qui a déposé le premier brevet pour le téléphone. Et donc Monsieur Bell, il s'est intéressé au téléphone et plus particulièrement aux lignes téléphoniques. Le problème des lignes téléphoniques, c'est que c'est des kilomètres et des kilomètres de fil, et que au bout d'une certaine distance, on n'entendait plus rien, on n'entendait plus le correspondant. Donc il fallait mettre un système. Alors en 1876, il n'était pas encore inventé, mais ça a été mis en place au fur et à mesure, un système donc pour amplifier les signaux qui étaient devenus trop faibles. Et donc Monsieur Bell, en fait, il va utiliser les lignes télégraphiques pour faire passer dessus de la voix, du son. Et il va se trouver devant un problème, c'est que l'atténuation de ces lignes télégraphiques fait que au bout de, je dis n'importe quoi, 20 km, on n'entend plus rien. C'était un petit peu gênant. Et pour quantifier la perte issue de la longueur de la ligne, il va utiliser des ratios et notamment il va utiliser des logarithmes pour mettre ça en forme. Et ces logarithmes vont devenir le décibel, enfin tout au moins ce calcul va devenir plus tard le décibel en hommage de Monsieur Bell. Voilà, donc c'est pour ça qu'on voit écrit dB, donc déci comme un dixième de Bell, puisque l'unité Bell, c'est de Monsieur Bell. Mais là, il n'y a pas deux L, hein. C'est décibel, il n'y a pas deux L. Donc, en anglais, Bell c'est cloche, donc c'est Monsieur Cloche. Ça fait moins drôle.
Il a eu beaucoup de succès à Pâques.
Oui, là, il y a eu beaucoup de succès à Pâques. Exactement. Donc voilà, ça c'est le schéma d'un amplificateur. Donc quand on montre un triangle comme ça, c'est pour dire ce circuit-là, qui est à l'intérieur entre l'entrée et la sortie, c'est un circuit amplificateur. Et donc l'entrée est ici, là, sur la base, et la sortie, elle est sur la pointe, pour montrer que voilà, ça passe dans ce sens-là. Et évidemment, un amplificateur, il y a une entrée, une sortie, mais ce n'est pas quelque chose de réversible. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous mettez un signal sur la sortie qui va ressortir sur l'entrée. Ça ne marche pas, ça. C'est un amplificateur, c'est par définition non réversible. En revanche, la bobine, le condensateur, la résistance, ce sont des composants passifs et donc réversibles. Voilà. Donc, Monsieur Bell, on va pas revenir dessus, il a mis en place un système qui permet de transformer des rapports en décibels. On va voir juste après que l'intérêt du décibel, c'est que comme ce sont des logarithmes, eh bien on va utiliser pour les décibels les propriétés des logarithmes et notamment transformer toute multiplication en addition et toute division en soustraction. Ce qui simplifie énormément les choses. Si bien que finalement, nos techniciens, plutôt que de parler de rapport à la sortie d'un amplificateur, au lieu de dire bah, « mon amplificateur, il a un rapport de 10 parce qu'il multiplie par 10 la puissance à la sortie », on va plutôt utiliser des décibels. Et on va voir que le décibel, il est utilisé dans plein de systèmes. Donc mon décibel, ici je vous ai mis la table simplifiée des décibels. Alors table simplifiée, ça veut dire quoi? C'est on va voir le nombre de, enfin la dizaine de décibels. Donc par exemple, si je dis 10 décibels, ça va être le 1, c'est ma dizaine de décibels, et donc le 1 de la dizaine va me donner le nombre de zéros du rapport. On va faire des exemples à la suite. Ça va être beaucoup plus simple après, une fois que vous aurez compris l'idée. Donc ça, c'est la dizaine de décibels. Pour l'unité de décibels, selon si le nombre de décibels finit par 0, 3, 6 ou 9, ça va me donner un rapport arithmétique de 1, 2, 4 ou 8. Donc on voit ici que c'est une série que j'appelle arithmétique. Pourquoi? C'est qu'à chaque fois j'ajoute 3, donc c'est une série qu'on appelle arithmétique, j'ajoute. Alors qu'ici c'est une série géométrique, c'est-à-dire qu'à chaque fois je multiplie par 2. 1 fois 2, 2, 2 fois 2, 4, 4 fois 2, 8. Donc ici c'est une série géométrique, ici c'est une série arithmétique. Et c'est pour ça que ça transforme mes multiplications en addition. On va voir des exemples pratiques. Inversement, pour transformer un rapport, enfin un nombre de décibels en rapport, eh bien par exemple 20 dB. Ben 20 dB, je sais que c'est donc le nombre de dizaines, c'est 2, donc ça va multiplier par 100. On va faire des exemples concrets, c'est beaucoup plus simple. Exemple, rapport arithmétique et donc décibels. J'ai repris ma table ici de décibels. Un rapport de 8, ça c'est facile, rapport de 8. Le rapport de 8 qui est ici correspond à 9 décibels. 8, 9 décibels, ça c'est facile. Plus compliqué, un rapport de 400. Et donc là, 8 devient 9 ici. Donc 8 devient 9. Un rapport de 400. 400, donc je pose mon 400. J'ai 2 zéros. Donc ça va me donner 20 décibels. Et le chiffre qu'il y a devant, là, le 4 correspond à 6. Ici, le 4 correspond à 6. Donc, quand j'ai un rapport de 400, ça me donne 26 décibels. Ça, ce sont C'est une table qui permet de transformer les décibels facilement sans être obligé de sortir la calculette. C'est surtout ça qui est intéressant, parce qu'évidemment, après, vous allez avoir une formule qui va vous permettre d'avoir le résultat précis des décibels, mais le but du jeu, c'est pas ça. Le but du jeu, c'est d'essayer d'accélérer un petit peu...
10 logs de essence.
Voilà, donc c'est compliqué. Donc, plutôt que d'utiliser la formule, il vaut mieux avoir une idée de ce que va donner le nombre de décibels en rapport arithmétique. C'est beaucoup plus parlant. Donc là, pour transformer des décibels en rapport numérique, donc si j'ai 16 dB, donc là, je vais utiliser ici la table du haut, donc ma dizaine de décibels, c'est mon nombre de zéros. Un zéro, ben j'en ai qu'un seul. Et mon 6, je le croise ici, mon 6 correspond au 4. Donc 16 dB, ça me fait 400. Vous remarquez, 26 dB, 26 dB 400, 16 dB 40. Et entre les deux, j'ai 10 dB. 10 dB, j'additionne 10, 16 plus 10, 26, mais 400 fois 10, 40 fois 10 égale 400, pardon. Donc ici, j'ai bien transformé ici une addition, ici on se soustrait en multiplication. Le truc tordu. On va faire des exemples concrets après. 20 décibels, ça, alors ça, 20 décibels, vous devez le connaître puisque vous l'avez vu quand vous avez fait la partie réglementation. 2, ça correspond à 2 zéros derrière, donc 100. Et mon 0 correspond à 1. Ici, mon 0 correspond à 1. Donc 20 dB, ça me fait multiplier la puissance par 100. Et 33 décibels, bah, le 3 de ma dizaine de décibels correspond au 3 zéros que j'ai ici, et mon 3 correspond à 2. Ici, mon 3 correspond à 2. Donc 33 décibels, ça me fait un rapport de puissance de 2000.
Ce qui est énorme.
Ce qui est déjà pas mal.
C'est énorme.
Pas mal. Un amplificateur qui a un gain de 33 décibels, ça commence à faire. En revanche, n'oubliez pas que quand on est dans notre monde, c'est-à-dire le rapport de puissance entre la puissance d'émission et la puissance que va recevoir l'antenne du correspondant, c'est des valeurs qui sont énormes. En milliards, en termes de puissance, et encore, le milliard me semble très, très peu. C'est peut-être du milliard de milliards. Et le milliard de milliards, ça ne fait que 180 dB. Donc, ça reste un nombre assez facile. Enfin, on arrive à comprendre. Un milliard de milliards, j'ai un peu de mal. Mais 180 dB, c'est plus... Alors, c'est des montants énormes, on est bien d'accord. Mais c'est plus concevable.
Je ne sais pas si on rencontre ça souvent quand même.
Ah bah si. Comment dire, le bilan de... ça s'appelle un bilan de contact pour... Quand tu fais un contact via la Lune, ça se calcule, c'est-à-dire qu'il faut que... Enfin, il y a une atténuation entre la puissance que tu émets et la puissance qui est réfléchie sur la... Oui. Et ça, c'est de l'ordre, et c'est même plus important que 180 dB. C'est-à-dire qu'il te faut, pour faire ce genre de contact, un ensemble qui fait dans les 200 dB à peu près. Pour que le contact soit réalisable.
Et en phonie.
En phonie, oui. Et je parle pas du... de la télévision, parce qu'il y en a qui ont essayé en télévision. Mais là, c'est encore pire. Là. Voilà, donc c'est pour vous dire que les décibels,
Sinon, JT quelque chose, ça doit être moins quand
ah
même.
Oui, oui. Mais ça reste quand même dans les 120 dB quand même.
Ouais, ce qui est pas mal.
C'est déjà pas mal. Alors, sur une calculette, parce que c'est pas le tout, on a fait une belle démonstration là avec notre. Alors, si ma webcam, elle veut bien se mettre comme il faut, voilà. Je vais vous passer ça à la webcam. Donc, pour passer du décibel. Du rapport arithmétique au décibel, voici la formule qu'il va falloir appliquer. Donc 10 log de la puissance de sortie divisé par la puissance d'entrée. Donc par exemple, mon dernier calcul là, 2000, on va le faire à la calculette. Alors oui, je vous ai mis ici les touches sur lesquelles il faut appuyer. Donc on fait 10 fois log, on appuie sur log, ça doit ouvrir une parenthèse, pas certain, ça dépend des calculettes, et donc on met le rapport, et donc si on a un rapport de 2000, ou si on a par exemple 8000 watts en sortie et 4 watts en entrée, ça me fait un rapport de 2000, et donc ça me fait 33 décibels.
On peut se poser la question d'ailleurs pourquoi dans la formule ils ont pris des logs décimaux et pas des logs népériens.
C'est Monsieur Bell qui a décidé ça. Puis c'est beaucoup plus simple les logs décimaux. Hein. Oui, après tout peut se voir, oui, tout à fait. Bon, en tout cas, ce sont des logs décimaux. Alors, petite calculette. Alors, comme d'habitude, j'ai des reflets intempestifs. Alors, on va foutre un stylo en dessous pour éviter le reflet. Est-ce que ça évite le reflet? Un peu mieux. Alors, donc, je fais 10. Log, ma fonction log, elle est là. Il est marqué log. Ça ouvre une parenthèse sur ma calculette. On va reprendre mes 8000 watts en sortie et mes 4 watts en entrée, divisé par 4. D'accord? Donc ça, 8000, c'est ma puissance de sortie, 4, c'est ma puissance d'entrée. Donc ça va me donner mon rapport. Voilà, intuitivement, je sens bien que ça fait 2000. Et 2000, j'avais vu calculer tout à l'heure, enfin calculer, trouvé par ma table de conversion 33, je fais exé et ça me donne 3,3 10 puissance 1. Donc 33,01 dB. Je suis quand même pas loin. Avec mon calcul très approximatif et ma jolie table de conversion, voilà, je m'en sors pas trop mal. D'accord? Donc ça, c'est pour transformer un rapport de puissance en logarithme. En logarithme, en décibels. Et donc, en décibels, ça me donne 33 décibels. Je reviens sur mon PDF. Et pour passer du décibel, donc de mes 33 décibels, à mon rapport de puissance, eh bien, tout simplement, je vais utiliser la fonction maintenant 10 puissance x, qui n'est pas loin de la fonction log sur ma calculette, que je vais diviser par 10, puisque ce sont des décibels, donc il faut que je divise par 10 pour obtenir des belles, et que je multiplie par ma puissance d'entrée, qui était de 4 watts tout à l'heure. Et donc, on va voir que ça marche bien. Alors, je reviens sur ma calculette. Alors là, je vais faire donc 10 puissance. Donc le puissance de x, il est au-dessus de log. Là. Donc c'est fonction seconde, log. Ça ouvre ce petit truc-là. Et là, je vais indiquer 33 divisé par 10. Vous voyez, ça me met une puissance de 10. C'est légèrement décalé vers le haut, puisque mes 33, c'est mes 33 décibels de tout à l'heure. Okay? Alors, j'ai pas mis 33,01. Et si je m'amusais à mettre 33,01, ça serait encore plus précis. Là, je fais exé. Ça me donne 1,9953 10 puissance 4. Donc, 1995,3. Quasiment 2000. Que je multiplie par 4. Et ça me donne donc 7981. Donc, presque mes 8000 que j'avais tout à l'heure. Donc on a bien réussi à retrouver nos petits. J'aurai bien sûr mon PDF. Donc voici mes... Alors, encore une fois, il faut faire attention à la calculette et on utilise bien la fonction qui n'est pas trop loin de la fonction log et surtout pas la fonction qui fait 10 puissance x, c'est-à-dire la fonction de multiplier de la enfin pour saisir les multiples et les sous-multiples. C'est surtout pas celle-là qu'il faut utiliser, ça marche pas. Et de même, il y a une fonction qui s'appelle ln, donc le logarithme népérien sur ma calculette là, ce n'est pas celle-là non plus. C'est la fonction log et la fonction 10 puissance x. Voilà. Donc si vous n'avez pas une FX92 ou si ce n'est pas exactement le même modèle, selon les modèles, la touche elle peut changer légèrement de place, hein, selon les années. Donc voilà. Un nombre négatif de décibels inverse le rapport mathématique et indique une atténuation. C'est-à-dire que si j'écris moins 3 dB, ça me fait 1/2. Et si j'écris moins 16 dB, bah ça me fait 1 divisé par... Donc le 1, ça me fait 1,0. Et le 6, ça me fait 4. Donc ça me fait 40. 1 quarantième, c'est-à-dire 0,025. Ici, je vous ai mis la fonction logarithmique. Ça c'est la fonction mathématique du logarithme qui est là, c'est à dire que ça passe par 1 et pour la valeur 1 ça correspond ici à 10 et la valeur ici à moins 1 ça correspond à 0,10, enfin 0,1. Et donc ça c'est une fonction particulière, fonction mathématique particulière. Ici, ça se rapproche de plus en plus de l'axe Y, là. Ça se rapproche de plus en plus, sans jamais le dépasser. Et là, ça part vers l'infini. Il n'y a pas de limite.
C'est une asymptote.
Elle est asymptotique ici, mais pas là. Il n'y a qu'une seule asymptote, là.
Celle qui est décroissante en français.
Ouais. Ouais. Au-delà, ici, elle n'est plus asymptotique, c'est-à-dire qu'elle va toujours augmenter. À l'infini, elle sera. Évidemment, elle va augmenter de moins en moins, mais c'est pas grave. À l'infini, elle sera infiniment haute. Et donc là, ces décibels, comme j'utilise la fonction log, bah ça va fonctionner avec des logarithmes. Et ce qui est normal, et les caractéristiques des logarithmes, c'est notamment que les gains successifs, c'est-à-dire les multiplications, quand on a plusieurs amplificateurs mis bout à bout, ça se transforme en addition. C'est-à-dire que si j'ai un amplificateur de 10 dB et un deuxième de 20 dB, en tout, ça me fait 30 dB. Ou plus compliqué, un amplificateur de 12 dB suivi d'un amplificateur de 14 dB, ça va me donner 26 dB, et 26 dB, je vais pouvoir facilement retrouver ce que c'est. Alors que 12 et 14, c'était pas aussi évident que ça, puisque si c'est 12 ou 14, ça va se retrouver, enfin 12 va se retrouver ici, et 14, il va se retrouver dans ce coin-là. Donc ils vont être entre 1 et 2, et 14, ça va être entre 2 et 4, mais précisément où, on ne sait pas trop. Ça donne une idée à peu près de la grandeur de l'amplification. Les pertes, ça se transforme, donc les pertes sont des divisions, ça se transforme en soustraction. Et ce que l'on va voir quand on fera les câbles coaxiaux notamment, les puissances et les racines, et pour cela, donc c'est comme ça qu'on va utiliser, c'est pour ça qu'on va utiliser les décibels aussi pour les câbles coaxiaux et les affaiblissements de câbles coaxiaux. Là, on va utiliser, c'est des fonctions qui sont typiquement logarithmique. Et donc, ça va nous permettre de calculer des affaiblissements linéiques et de les transformer en simplement multiplication et division. Ce qui va simplifier énormément les choses. Et donc, la perte d'un câble se calcule en décibels par mètre ou décibels pour 100 mètres, mais c'est pareil. Pourquoi décibels pour 100 mètres? C'est que la plupart du temps, les bobines de câble font 100 mètres. Donc le constructeur, il vous dit l'affaiblissement du câble pour l'ensemble de la bobine. Mais si vous prenez que 30 mètres, eh ben, vous prenez son prorata. C'est-à-dire que vous divisez par 100, vous multipliez par 30. Ce qui revient à définir une perte en décibels par mètre. Alors ça, c'est un exemple. Évidemment, il n'y a pas de calcul comme ça pour l'examen, et heureusement, et ça anticipe un petit peu tout ce que l'on va voir par la suite, mais ça vous permet de bien comprendre l'intérêt d'utiliser des décibels et par rapport à des calculs avec des rapports. Oui, des rapports de puissance. Exemple, j'ai une antenne ici qui fait 19 dB. 19 dB, je rappelle quand même, 1 correspond à multiplier par 10, hein, 1 correspond à la dizaine de décibels, je multiplie par 10 puisque j'ai un seul zéro derrière, et le 9 correspond à 8. Le 9 correspond à 8 ici. Donc 19 dB correspond à un rapport de 80. Ce qui veut dire que si j'ai une antenne qui fait 19 dB, elle a un signal à l'entrée de son antenne 80 fois plus élevé que un signal avec la même antenne doublée. Une antenne simple doublée la tension du signal mis ici dans le câble coaxial, ça va être 80 fois inférieur sur un doublet par rapport à cette antenne ici qui a un gain de 19 dB. C'est ça que ça veut dire. On va supposer ici, parce que le préampli il est juste à côté de l'antenne, que mon câble coaxial là, n'apporte pas de perte. Voilà, on va supposer, et que du coup le préampli il est très proche de l'antenne. Voilà, c'est une supposition. Après mon préampli, ici, j'ai un câble coaxial qui fait 33 mètres de long. Enfin, il est en haut du pylône. Il faut redescendre mon câble du haut du pylône en bas du pylône et puis rentrer dans la maison pour arriver jusqu'à la station. Et 33 mètres, en règle générale, c'est une petite longueur. Hein. On peut avoir des longueurs bien plus importantes. Là, mon constructeur, il dit que mon câble, il fait 3 décibels pour 100 mètres. Ce qui n'est pas complètement déconnant. Surtout quand on est, par exemple, sur 2 mètres et encore plus sur 70 cm. D'autant plus que là, j'ai mon antenne. Voilà. Et là, donc, 3 décibels, donc ça divise par 2 pour 100 mètres. Mais j'en ai pas 100 mètres, j'en ai 33 mètres. Et là, c'est là que ça se complique. Parce que si on n'utilise pas les décibels, donc la perte ici, ça serait la racine cubique de 0,5. Puisque 3 dB, je perds la moitié de la puissance. 3 dB, c'est 1,5. Donc si pour 100 mètres, je perds la moitié de la puissance, pour 33 mètres, c'est la racine cubique de 0,5. Pourquoi ? Au bout de 33 mètres, c'est donc la racine cubique de 0,5, donc 0,8. Au bout de 33 mètres supérieurs, c'est 0,8 fois 0,8, donc il ne me reste plus que 0,64 de ma puissance, 64% de la puissance. Et au bout encore de 33 mètres, là, je n'ai plus que la moitié de la puissance. Donc c'est quand même assez compliqué. Alors, et encore là, c'est simple puisque j'ai pris 33 mètres, donc finalement une sorte de multiple de 100 mètres. Et si ça peint un multiple de 100 mètres, on est dans la misère la plus totale. Alors que lorsque je réfléchis en décibels, bah c'est assez con parce qu'on me dit c'est 3 décibels pour 100 mètres. Donc pour 33 mètres, bah c'est 1 décibel. Puisque c'est complètement linéaire. Hein, pour 33 mètres, j'ai 3 fois moins de pertes que pour 100 mètres. Et donc, ce 3 dB se transforme ici en 1 dB. Ensuite, alors là, j'ai fait exprès, je vous ai mis un connecteur HF, mais pourri de chez pourri, parce que perte d'insertion 2 décibels. Alors là, faudrait, même si vous avez pris un super câble coaxial, vous avez intérêt quand même à mettre du matériel de qualité parce que c'est un peu dommage. Et là, le constructeur, il vous dit, bah, la perte d'insertion est de 2 dB. Ok, 2 dB. Et là, je prends ma table de conversion parce que j'en ai une qui était simplifiée, là, elle est un peu plus complète. Donc, 2 décibels correspond à une perte de 1,58. Donc, 1 divisé par 1,58, c'est-à-dire 0,63. Quand je fais mes rapports ici, je multiplie tout ça. Donc, c'est 80 multiplié par 100, multiplié par 0,8, multiplié par 0,63. Et quand on fait cette belle opération, ça me donne 4050. Quand je calcule avec mes décibels, 19 plus 20, 39. 39 moins 1, 38. 38 moins 2, 36. 36 décibels. Facile. J'ai même pas besoin de sortir ma calculette. 36 décibels. 3, ma dizaine de décibels, correspond à fois 100. 3 correspond à fois 1000, 3 zéros derrière, et mon 6 correspond à 4. Donc ça me fait 4 et 3 zéros derrière, 4000. Ici je trouve donc 4000, ici 4050, en m'étant bien emmerdé à calculer tout ça. Donc la moralité de cette belle démonstration, c'est que c'est quand même beaucoup plus facile de travailler avec les décibels que de travailler avec les rapports de puissance. Et encore là, on a eu de la chance parce qu'on avait ici un rapport, pour ma perte dans le câble coaxial, où j'avais quelque chose auquel je me raccrochais. Sinon, c'est assez compliqué. Alors, petit point particulier, ce qu'on a vu là jusqu'à présent, c'était des rapports de puissance. Mais on a dit que, tout au départ, que les décibels, c'était des rapports de valeur dans la même unité. Et ça peut aussi s'exprimer en décibels. Mais dans ce cas-là, la formule n'est plus la même. Quand je suis en décibels, c'est donc en puissance, c'est 10 log du rapport de puissance. Si c'est autre chose que la puissance, je vais utiliser une autre formule. Et cette autre formule, si j'utilise la tension, eh bien je vais utiliser la formule 20 log de la tension de sortie par rapport à la tension d'entrée. Et évidemment, ici, pour passer de l'autre côté, c'est-à-dire transformer mes décibels en rapport, eh ben, je vais diviser par 20. D'accord ? Ça, c'est parce que quand j'exprime mes rapports en tension, pour passer de tension à puissance, j'ai cette formule mathématique ici. C'est-à-dire la puissance, c'est la tension au carré divisée par R. Alors, en supposant que ma résistance, enfin que l'impédance d'entrée soit égale à l'impédance de sortie. Ce qui n'est même pas certain. Et donc, si les deux impédances sont égales, eh bien, à ce moment-là, on va pouvoir utiliser cette formule-là qui va nous donner le gain en décibels de l'amplificateur. Et vous remarquez que, bah, tout simplement, le rapport de... un rapport de tension ici de 2, comme ma formule c'est P égale U2 sur R, eh bien la valeur en décibels, elle est doublée. Donc, un rapport de 2 ici me donne donc 3 décibels multipliés par 2 puisque c'est des tensions. Et donc ça me donne 6 décibels. Bon, c'est assez compliqué, donc vous passez dessus assez rapidement parce qu'il n'y a quasiment pas de questions à l'examen. La seule question à l'examen, c'est, enfin, quelques-unes de ce type-là. C'est par exemple 10 microvolts sur une antenne de 12 décibels. Quelle est la tension aux bornes de l'antenne? Et donc les 12 décibels correspondent à un rapport de 4, puisque ici j'ai une tension, donc il faut que je divise par 2. 12 décibels divisé par 2, ça me donne 6, et 6 correspond à un rapport de 4. Là, c'est le truc tordu. Et donc, mes 10 microvolts sur une antenne qui fait 12 décibels, bah, vont donner 40 microvolts. Alors, plus exactement, 10 microvolts sur une antenne qui n'a pas de gain, par rapport à 10 microvolts sur une antenne qui a 12 décibels, eh bien, l'antenne qui a 12 décibels aura à sa sortie 40 millivolts, alors que l'autre n'affichera que 10 millivolts. C'est pas des millivolts, d'ailleurs, c'est des microvolts. Évidemment, on a la même formule si on utilise l'intensité, puisque pour l'intensité, c'est P égale RI2. Donc, on a toujours le carré, soit en intensité ici, soit ici dans la tension. Et évidemment, ce n'est valable que si et seulement si mes impédances sont les mêmes à l'entrée et à la sortie. Si ce n'est pas le cas, ça se complique. Et si c'est déphasé, c'est encore plus compliqué. Ça serait trop simple. C'est pour ça qu'on préfère toujours utiliser la puissance. Bien que ce soit... Enfin, la puissance, encore une fois, c'est pas facile à mesurer. qu'on mesure facilement, c'est une tension. La puissance est beaucoup plus difficile à mesurer. Il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. On en arrive à des notions un peu particulières sur les fréquences. Alors, première chose, on va parler dans le monde de la radio d'un harmonique masculin. Alors que quand on est en musique, c'est une harmonique. Tordu. Donc, un harmonique, c'est un multiple entier d'une fréquence. C'est-à-dire qu'un harmonique ne peut être que supérieur à la fréquence. C'est un multiple entier. Donc, un harmonique ne peut être que au-dessus d'une fréquence. Et par exemple, l'harmonique 3, c'est la fréquence de référence multipliée par 3. Tout simplement. Donc, quand on va parler d'harmonique, c'est toutes les fréquences qui sont multiples d'une fréquence. Vous vous souvenez l'histoire de Fourier, là, qui avait démontré que tout signal sinusoïdal pouvait se... tout signal alternatif pouvait se représenter par la somme de fréquences sinusoïdales harmoniques entre elles. Donc ça, c'est pour vous rappeler Fourier dans le coin, là, quand vous voyez ça. Quelque chose qui n'est pas... ça va avec, ce sont les octaves. Et là, c'est vraiment par rapport à la... c'est la même définition que pour la musique. À chaque octave, la fréquence est multipliée ou divisée par 2. C'est-à-dire que si vous avez un Do ici, le même Do ici, la fréquence entre les deux aura ici doublé. D'accord ? Et si j'ai encore un Do au-dessus, là, eh bien, la fréquence elle aura été multipliée par 4 par rapport à celle-là. D'accord ? Donc ça, c'est les octaves. Donc les octaves peuvent être supérieures. Donc l'octave supérieure, c'est l'harmonique 2. Et la deuxième octave, je multiplie encore une fois par 2, et c'est 4. Et la troisième octave, c'est 8. Mais attention, la troisième l'harmonique 3 n'est pas une octave. Ne pas confondre la troisième octave avec l'harmonique 3. La troisième octave, c'est la fréquence multipliée par 8. Et ce n'est pas l'harmonique 3, qui n'est pas une octave. Et l'octave inférieure, c'est la même chose, sauf que là, je vais diviser par 2. Alors que pour mes harmoniques, je ne peux pas diviser. C'est toujours un multiple. C'est jamais divisé. Donc les fréquences harmoniques ne peuvent être que supérieures à la fréquence de référence. Alors que mes octaves, il faut que je dise si c'est l'octave supérieure ou inférieure. Inférieure, évidemment, la fréquence, elle est plus basse, puisque ma fréquence est divisée par 2. Et on a quelque chose de spécifique dans le monde de la radio. Donc octave, on sent bien ce que c'est. La décade, c'est pareil, ça n'existe pas en musique. Enfin, tout au moins, c'est très peu utilisé. Et là, c'est la fréquence multipliée ou divisée par 10. Donc ça va marcher comme les octaves. La première décade supérieure, c'est la fréquence multipliée par 10, ou l'harmonique 10. La deuxième décade, c'est multiplié par 100. Okay. Et la décade inférieure, c'est la fréquence divisée par 10. Donc, trois notions à bien avoir en tête. Harmonique, octave, décade. Et pour octave et décade, savoir si on est supérieur, donc avec une fréquence au-delà, ou inférieure, fréquence divisée. Par exemple, j'ai une fréquence de 150 kHz. quelle est la cinquième octave supérieure. Donc cinquième octave supérieure, ben, c'est donc je multiplie deux, enfin, par 2 5 fois. Donc 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, hein, il y a 5 fois, ce qui me fait 32. 2 puissance 5, 2 puissance 5 c'est 32, fois 150 kHz, ça me fait 4800 kHz, ou quasiment 5 mégas. Et quelle est la troisième décade inférieure ? La troisième décade inférieure, je multiplie par 10 3 fois, ce qui me fait 1000, mais comme c'est inférieur, il faut que je divise. Donc 150 kHz divisé par 1000, ça me fait 150 Hz. Bon, ça c'est du vocabulaire, hein, c'est pour vous fixer les idées. Une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir s'occuper maintenant d'un filtre RC. Qu'est-ce que c'est qu'un filtre RC ? C'est un filtre composé de R résistance et C condensateur. Donc ici je vous ai mis les deux filtres. Un filtre qu'on va appeler passe haut et un filtre qu'on va appeler passe bas. Pourquoi ? C'est que le filtre passe haut ne va laisser passer que les fréquences supérieures à une certaine fréquence qui s'appelle la fréquence de coupure. C'est un filtre passe haut. Et le filtre passe bas, c'est l'inverse. Il ne va laisser passer que les fréquences inférieure à la fréquence de coupure. C'est un filtre passe-bas. Et pour reconnaître les deux filtres, donc à chaque fois il y a la résistance et le condensateur à des places qui sont inversées là, dans les deux filtres, et pour reconnaître le filtre, eh bien, on regarde la place du condensateur. Si le condensateur est en haut, c'est un filtre passe-haut. Si le condensateur est en bas, c'est un filtre passe-bas. Simple. Comment ça marche ? Eh bien, en fait, comment ça marche ? On se souvient que pour mon condensateur, ce qui va varier finalement, enfin, l'impédance du condensateur ici va varier avec la fréquence du signal. Plus la fréquence du signal augmente, plus la valeur, enfin, l'impédance de mon condensateur diminue. D'accord ? Et quand je mets ici, en fait ça c'est mon filtre passe haut, je l'ai représenté ici différemment. Hein, j'ai juste changé la place ici, mon condensateur, je le mets ici en haut, et ma sortie, je la mesure ici. Et donc mon entrée, elle est en haut. Hein, c'est juste, j'ai juste représenté mon circuit de manière différente. Donc ici, ça, c'est ma tension d'entrée. La tension d'entrée, c'est quoi ? C'est la tension ici sur ma résistance, plus la tension ici sur mon condensateur. Ici, je suis bien en série, donc je vais... alors, ça ne va pas être complètement comme dans un circuit série, puisque vous vous souvenez qu'il y avait le déphasage du condensateur qui venait foutre le bordel. En revanche, ici, ma tension, là, que j'ai là, elle va être proportionnelle, finalement, enfin, ça va être l'addition de mes deux impédances, enfin, de ma résistance plus mon impédance. Et ma sortie, ici, elle est que sur la valeur de la résistance. Donc, quand je change de fréquence, ici, j'ai ce rapport ici qui va changer. Plus ma fréquence augmente, plus ici mon condensateur va avoir une faible impédance et donc ma tension de sortie va se rapprocher de ma tension d'entrée. Donc quand j'augmente ma fréquence, ici le condensateur, enfin ma tension de sortie va se rapprocher de la tension d'entrée, donc c'est bien ce que je décris comme étant un filtre passe haut. Plus ma fréquence augmente ici, plus ma tension de sortie va se rapprocher de la tension d'entrée. Et inversement, plus ma fréquence diminue, plus je vais avoir un gros écart entre la tension d'entrée et la tension de sortie. Et donc, mon filtre va couper les fréquences qui sont supérieures à la fréquence de coupure. Ou l'inverse, elle ne laissera passer que les fréquences supérieures à la fréquence de coupure. Enfin, c'est l'inverse. Mais bon, c'est pareil. Soit je coupe tout ce qu'il y a en dessous, ou je laisse passer tout ce qu'il y a au-dessus. Mais comme quand on parle de passe haut, c'est pour dire ça laisse passer, voilà, c'est quand j'augmente ma fréquence, et bien ici, ma différence entre entrée et sortie devient de plus en plus faible. Et inversement, évidemment, si j'inverse, la résistance et le condensateur. On a l'effet inverse. Et par définition, ça c'est la définition que les techniciens ont donnée, la fréquence de coupure, c'est la fréquence pour laquelle la valeur de l'impédance est égale à la valeur de la résistance. On dit que c'est la fréquence de coupure. À un moment, il faut bien définir, puisque c'est quelque chose qui est continu. Donc à un moment, il faut bien définir où est cette foutue fréquence de coupure. Et les mathématiciens ont tranché et ils ont dit, eh bien, c'est quand R égale C, enfin, quand R égale à l'impédance du condensateur. Donc R est égal à l'impédance du condensateur, ce qui est écrit là, R égale 1 sur 2 pi FC, et donc il suffit que je prenne F, que je le remonte en haut, et R, que je le remette en bas. Et donc la fréquence de coupure, c'est 1 sur 2 pi RC. Fréquence de coupure qui est la même pour un filtre passe haut ou un filtre passe bas. Ça tombe bien, on a la même formule. On a fait un truc intelligent. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand ici, alors n'oubliez pas que mon condensateur, il donne un déphasage négatif. On va en parler quand on fera la manip là, de la soirée. Il donne un déphasage. Et on en a déjà parlé quand on avait vu les condensateurs, les bobines non parfaites. Ce qui veut dire qu'à ma fréquence de coupure, là, ici, je n'ai pas la moitié, mais comme j'ai alors je ne l'ai pas repris ici, mais j'ai mes deux vecteurs là, qui sont à 90 degrés, donc ici, ce n'est pas la moitié, mais c'est 0,707. D'accord ? Donc à ma fréquence de coupure, là, ça c'est un filtre, donc un filtre passe haut, puisque mon condensateur est en haut. Donc ma tension, plus j'augmente ma fréquence, plus ma tension de sortie ici se rapproche de la tension d'entrée. Et à la fréquence de coupure, eh bien c'est là où j'ai 0,707, et 0,707 en tension correspond à une atténuation de 3 dB. Puisque je suis en tension. Et non pas en puissance. Et en termes de puissance, j'ai bien la moitié de ma puissance. Et quand je me... puisque là, c'est un filtre passe haut, donc il y a défini une atténuation quand je suis dans la phase d'atténuation. Donc un filtre passe haut va atténuer les fréquences inférieures et il va atténuer les fréquences inférieures au rythme de 6 dB par octave. Donc si c'est un filtre passe-bas, c'est par octave supérieur, Mais que là, comme là, je suis dans un filtre passe haut, ce sont les octaves inférieures. 6 dB par octave. La puissance ou divisé par 2 la tension. Et si je réfléchis, si je raisonne non plus en octave mais en décade, eh bien c'est 20 dB par décade, supérieur pour un filtre passe bas et inférieur pour un filtre passe haut. Donc j'ai 20 dB, donc 100 fois moins de puissance, mais aussi 10 fois moins de tension. Puisque ma... Alors 10 fois moins de tension, pourquoi? Parce que ma fréquence, elle est 10 fois moins ou 10 fois plus élevée. C'est une décade. Donc ça, c'est la courbe d'atténuation de mon filtre. Évidemment, quand je suis à une fréquence de 0, bah, par définition, si je n'ai pas de courant alternatif, mon condensateur, il ne laisse rien passer du tout. Et du coup, bah, j'ai rien du tout au bout. Puisque c'est comme si ici, c'était coupé. D'ailleurs, c'est coupé. Mon courant continue, il ne peut pas traverser là. C'est le principe même du condensateur. Et donc, ça, c'est une courbe qui n'est pas très utilisée pour nous et pour les techniciens. On va utiliser plutôt, et on le verra la semaine prochaine, des représentations avec des échelles logarithmiques. Et quand on va utiliser des échelles logarithmiques, c'est là qu'on va voir que les courbes, finalement, sont... Il y a une double asymptote. On verra ça la semaine prochaine. Si vous voulez, mais ça, je ne vous conseille pas, enfin, je l'ai mis dans le cours, donc vous pouvez l'utiliser... Mais vous avez une formule simplifiée qui vous permet de calculer la fréquence de coupure plutôt que 1 sur 2 pi RC, qui est donc 159 divisé par R divisé par C. Le 159, on le retrouve là, on l'avait déjà vu quand on avait fait l'impédance du condensateur. Alors 159 ou 160 selon la précision que vous voulez donner. 159 étant un peu plus précis que 160. Mais le problème, là, c'est qu'il faut encore une fois que la question soit posée avec résistance en kilo-ohm, condensateur en microfarad, et donc la réponse sera donnée en hertz. Donc cette formule simplifiée, elle ne simplifie pas vraiment grand-chose, parce que vous n'êtes pas certain, d'une part, que les valeurs ici vont être données en kilo-ohm et en microfarad, et puis... voilà, il faut se souvenir des multiples et sous-multiples utilisés. Donc autant utiliser la formule de base, vous êtes certain que R est en ohm et C en farad. Dans ma formule, là, R en ohm, C en farad, et du coup la fréquence en hertz. Il vaut mieux utiliser les formules de base où on est certain du multiple et sous-multiple à utiliser. Parce que là, en l'occurrence, il n'y a pas de multiple sous-multiple, c'est la formule de base. Alors, question rapide, on va voir qu'on en a un peu de ce type-là à l'examen. Ça, c'est une question relativement simple. Donc, j'ai une résistance de 200 ohms, 500 micros. Quelle est la fréquence de coupure de ce filtre? Eh ben, je fais 1 divisé par 2 fois pi fois R fois C, et ça me fait 159 Hz. Je ne le fais pas à la calculette, il n'y a aucun intérêt, mais c'est pour vous montrer que à la calculette, si vous voulez taper ça, vous allez tomber sur 159 Hz. Et si vous voulez utiliser la formule simplifiée, excusez-moi, ici, là, donc, c'est des kilo-ohms, donc il faudra utiliser 0,2. Et donc, 0,2 fois 5, ça me fait bien 1. Et donc, 159 divisé par 1, ça me fait bien 159, donc 159 Hz. Ça marche. Et puis si vous avez utilisé 160, vous n'êtes pas loin et ça marche aussi. Là, c'est une question qui est quand même un peu plus tordue, avec des valeurs un peu aussi compliquées. Donc ici, on a 21,22 ohms. Je ne sais pas où ils ont trouvé la résistance, mais voilà. Je pense que c'est une résistance de 22
sur
ohms.
Sur AliExpress.
Voilà, un condensateur de 5 microfarads. Et donc, on me demande... quelle est la tension VS en sortie lorsque la fréquence de VE en entrée est de 6 kHz. Et donc cette tension ici VE, elle me fait 4 volts. Alors en fait, ce qu'il faut s'amuser à calculer, c'est la fréquence de coupure de ce filtre. Donc fréquence de coupure de ce filtre, donc si je prends ma belle formule là, ça me donne 1500 Hz. C'est pour ça que j'ai pris 21,22, pour que ça tombe pile poil sur 1500 Hz. 1500 Hz, donc par rapport à 6 kHz, là, alors déjà, ça c'est un filtre passe bas. Et donc, cette atténuation là, donc il laisse passer toutes les fréquences inférieures à ma fréquence de coupure, donc à mes 1500 Hz. Par contre, pour toutes les fréquences supérieures, j'ai une atténuation de 6 décibels par octave. Ici, mes 6 kHz par rapport à mes 1500 Hz, c'est ma deuxième octave. Et donc ma deuxième octave, l'atténuation, c'est donc 6 fois 2, puisque c'est 6 dB par octave. Donc 6 dB par octave, ça me donne donc 12 décibels d'atténuation. Il faut que je transforme ces 12 décibels en rapport de tension. Puisque ici, j'ai une tension, enfin la question porte sur des tensions et non pas sur des puissances. Donc là, je vais utiliser ma jolie formule en sachant que c'est 10 puissance moins 12 divisé par 20. Je tape ça sur ma jolie calculette, 10 puissance moins 12 divisé par 20. Et ça me donne 0,25. On peut le voir à la calculette, si vous en êtes pas certain. On... Donc je fais fonction seconde 10, donc c'est moins 12 divisé par 20, exé, et donc ça me fait 2,5 10 puissance moins 1. Donc je décale d'un cran ma virgule ici vers la gauche, et ça me donne bien 0,25, enfin 0,2519 précisément. Et donc 0,25, donc c'est 4 fois 0,25. Donc ici, j'ai 1 volt. Et si je veux faire quelque chose de super sioux, c'est-à-dire que ça, c'est ma théorie, on va voir la semaine prochaine que c'est pas aussi précis que ça, mais le calcul super précis me donnerait une tension de 0,9702 volts. Pourquoi ? C'est que mes 6 dB par octave, ça marche plus ou moins bien. C'est-à-dire que c'est plus ou moins 6 dB par octave. On verra la semaine prochaine que les deux courbes les courbes sont asymptotiques à deux droites. Mais si c'est asymptotique, ça veut dire que c'est pas sur la droite. Ça s'en rapproche de plus en plus, donc à l'infini, ça, c'est sur la droite, mais quand on n'est pas à l'infini, c'est pas sur la droite. Enfin, c'est pas sur la courbe, c'est un tout petit peu avant. Enfin bon, C'est pour le pouillème et l'enculage de mouches, ça. Donc voilà. Et si on veut calculer ça en décibels, bah 0,972, ça me donne 12,30 dB, précisément. Mais bon, tout le monde dit ça fait 12 dB. On a parlé des circuits RC, oui, mais finalement ça va marcher avec aussi une bobine qui va me donner un circuit RL avec les mêmes caractéristiques que mon circuit RC. La différence, c'est que ici, comme ma bobine a le comportement inverse de mon condensateur, dans ce cas-là, j'ai un circuit passe-bas. Donc ce qui est important là, c'est que, enfin, ici, si c'était à la place un condensateur, ça serait un filtre passe-haut, puisque le condensateur est en haut. Mais comme c'est une bobine, bah, ça inverse. C'est-à-dire que si la bobine est en haut, c'est un filtre passe-bas. Ou alors, on prend l'endroit où est la résistance. Et dans ce cas-là, ça marche, ça remarche. C'est-à-dire que là, la position de la résistance me donne la valeur de mon filtre, et c'est un filtre passe-bas dans ce cas-là. D'accord ? Et ma fréquence de coupure, elle est calculée de cette manière-là, c'est-à-dire que c'est plus 1 sur 2 pi f. 1 sur 2 pi RC, c'est R divisé par 2 pi L.
Tu es en Henri.
Et je suis en Henri. Henri, ohm et Hertz. Pourquoi? C'est qu'à la fréquence de coupure, on a la résistance qui est égale à l'impédance. Donc ici, mon... Alors ça repasse, enfin 2 pi L, ça repasse en dessous, ce qui me reste F, et donc ça me fait R divisé par 2 pi L. C'est exactement la même manière, la même logique que pour le circuit RC. Et à l'examen, à part trouver où est le circuit passe-bas, et j'ai vu une question une fois sur la formule de la fréquence de coupure, il n'y a pas de calcul. Tous les calculs sont plutôt sur les filtres RC. Et d'ailleurs, en radio, c'est essentiellement des filtres RC qu'on va utiliser. On va utiliser les filtres RL, alors ça c'est en audio plutôt, et notamment dans les autoradios. Les filtres pour les boomers notamment, c'est des filtres RL qu'on va utiliser. Parce que c'est plus facile de faire une grosse bobine que de faire un gros condensateur. C'est tout. S'il veut bien se lancer. Voilà. Alors, figure animée pour la physique. Yes. Ça met un peu de temps à charger, mais ça se charge. Alors, mes circuits, ils sont où? Électricité, filtre. Simulation de filtre. Voilà. Alors, mon joli... Alors, une bobine... Enfin, une résistance que je mets ici. Ici, alors comment j'ai mis mon filtre? Ok, un condensateur. Alors 1 kg et 0,66. Je regarde ce que j'ai préparé dans mon PDF. Hein. Désolé. Alors ici, je mets quelque chose qui montre qu'il n'y a pas de contact. Et ici, mon condensateur. Ici, je mets une résistance qui fait 1 kilo ohm. Voilà. et un condensateur qui fait 0,66 microfarad. 0,66 microfarad. Alors 0,66 microfarad. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est trouver ma fréquence de coupure. Ma fréquence de coupure, c'est quoi? C'est lorsque ma tension, alors je reviens là, lorsque ma tension ici est égale à 0,707 de ma tension ici d'entrée qui est de 5 volts. Donc si je fais 5 volts multiplié par 0,707, ça me fait 3,5, un peu plus de 3,5, 3,53 volts. Donc ici, là j'ai mon 5 volts, ici 4 volts, ici 3 volts. Et donc je vais changer ma fréquence pour arriver. Donc ici je suis à 3 volts. Voilà, je suis à peu près là. Vous remarquez que mon condensateur il déphase en retard, puisque ça c'est ma sinusoïde à l'entrée, hein, en bleu, en rouge c'est ce que je mesure ici, et au bord de mon condensateur ça arrive après. Voilà. Et donc là, je suis à la fréquence de coupure de mon filtre, ce qui veut dire que si j'augmente ma fréquence, puisque c'est un filtre passe bas, si j'augmente ma fréquence, eh bien, mon signal diminue, puisque c'est un filtre passe bas. En revanche, lorsque je suis au-delà de mes 0,707 qui doit se trouver dans ce coin-là, et bien ma tension elle augmente. Alors évidemment ça se voit plus derrière, c'est plus lisible, mais voilà. Et quand je repasse ici en mode, non c'est pas celui-là, c'est ça. Ici, ça me donne le gain, et ici, ça va me donner mon déphasage. Et mon déphasage, il va être de 45 degrés, donc ici, pour une valeur de, grosso modo, 1500 radians par seconde. Et quand on regarde la fréquence, c'est quoi? Non. 1500 radians par seconde, j'étais à combien quand j'étais à ma fréquence près dans ce coin là voilà. Ici je suis à 1,57 radians par seconde, donc 1570 radians par seconde, donc je suis bien ici. La difficulté qu'on va avoir là, avec ce système là, c'est qu'on a du mal à connaître le déphasage, alors qu'avec l'oscillo on va pouvoir plus facilement le mesurer. Voilà. Mais ce qui m'importe surtout, c'est que vous voyez bien ici l'impact de mon changement de fréquence. Enfin, plus j'augmente ma fréquence ici, plus mon atténuation est faible. Inversement, si je mets ici une bobine, vous allez voir que c'est strictement l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que plus la fréquence augmente, moins il y a d'atténuation, et inversement dans l'autre sens. Et on peut s'amuser à faire de la même manière, calculer la fréquence de coupure, qui doit être à peu près dans ce coin-là. Voilà, puisque ici je suis à peu près à 353 volts. Enfin, donc mes 5 volts multipliés par 0,707. Voilà. Et si j'inverse ici, que je mets ma bobine ici, on va y arriver, et ma résistance. Alors ça, hop, ma résistance ici. Vous voyez, alors, et je la mets encore à 1 kilo ohm. Je vais inverser le phénomène. Alors, où est-ce qu'il est mon 1? Voilà. Et là, j'inverse le phénomène. C'est-à-dire que lorsque je diminue ma fréquence, j'augmente la tension de sortie de mon circuit. Et inversement, quand j'augmente ma fréquence, la tension de sortie de mon circuit est plus faible. Voilà, alors c'est tout ce que je voulais montrer. Oui, je vais revenir sur le PDF pour vous montrer ce que j'avais, les captures d'écran que j'avais faites. Donc mon déphasage de 45 degrés, là je les ai mis, c'est plus facile que vous augmentez un peu là. Alors, mes copies d'écran, je vous ai mis là des traits, donc le 3,85 là, donc 0,5, enfin 5 volts multiplié par 0,707. Et ici, mon 45 degrés, c'est-à-dire l'écart ici que j'ai entre mes deux sinusoïdes, qui se mesure un peu plus visuellement. C'est un peu compliqué à mesurer là. Mais vous allez voir qu'à l'oscilloscope, ça se fait très bien. Et ici, je vous ai mis les différentes valeurs qu'on avait vues dans, quand on passait dans l'autre mode. Ah, raté. Donc ici, à ma fréquence de coupure, et ici, à 3 décibels. À 3 décibels, à l'harmonie, à la première octave, et donc mes 6 décibels, et donc 6 décibels en termes de tension, c'est donc la moitié de la tension. Voilà comment ça se... Et celle-là, c'est quoi du coup? 0,125, c'est quand je suis ici à l'harmonie 4. Alors, 0,125, 0,25 de 5 volts, ça me donne 1 volt 25. Voilà. Donc ça marche pas trop mal. Alors, petite manip de la soirée que je vais vous montrer. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Donc, je vais reprendre le circuit qu'on avait utilisé il y a 15 jours, je crois. Donc, une résistance, ma bobine de 790 micro-ohms Henry et mon condensateur de 160 picots. Et je vais montrer que lorsque je suis à la fréquence de coupure, c'est-à-dire lorsque ma résistance est égale à la valeur de l'impédance, enfin plus exactement, je vais regarder ce qui se passe à ma fréquence de coupure, donc lorsque ma tension est de 0,707 de ma tension de départ à l'entrée du circuit, et on va essayer de voir ce qui se passe à deux fois la fréquence ou à quatre fois la fréquence, voir si c'est cohérent, et puis le déphasage que l'on a. Alors on va passer à la manif. On va passer, alors on va mettre ça au propre. Voilà. Donc, petit rappel de ce que l'on mesure. Ah ben voilà, impeccable. Donc, on met en route la bête. Alors, donc là, j'ai commencé par mettre la bobine et non pas le condensateur comme sur le condensateur est là, on va l'utiliser après. Donc là, on a la bobine, une résistance, ma bobine, le générateur qui me génère une fréquence. Et là, ce que je vais essayer de faire, alors premièrement, on va regarder la tension que j'ai en entrée. Ici, j'ai quoi en entrée? J'ai 2,43 volts. Donc 2,44, pardon. 2,44 volts. Et là, maintenant, il faut que j'arrive alors à une tension de 2,44 multiplié par 0,707. Exé, il faut que j'arrive à 1,72. Voilà, je ne sais pas si vous voyez à la calculette, 1,72 ou 1,73. Et donc là, avec mon générateur, il faut que j'arrive à 1,73. Alors que je le mette bien au bon endroit. Et donc là, j'ai 1,89, donc il faut que je diminue. Ah, ça va pas dans le bon sens. Alors ça c'est... Ah oui, parce que là j'ai pas la même... Vous voyez, j'ai 500 millivolts et 1 volt, donc il faut que j'utilise quand même le même calibre pour que on voit ce qui se passe, parce que sinon, si j'utilise pas les mêmes échelles, on a un peu de mal à comprendre ce qui se passe. Alors hop, du coup j'ai perdu ça. Voilà, bah c'est bien. Donc là, en théorie, donc là je vais donner un peu plus. Voilà. En théorie, là, j'ai ici un déphasage, enfin je suis donc à la fréquence de coupure, puisque j'ai ma tension de sortie égale à 0,707 de ma tension d'entrée. Et ce que je vais faire, je vais mesurer mon déphasage. Comment je fais? Alors déjà je prends un peu plus de largeur pour voir. Et là je vais utiliser, alors H il est là. Hop. Alors je vais utiliser celui-là par exemple. Voilà. Ensuite ici. Donc là j'ai des curseurs hein, qui se permettent de se balader et de le faire précisément. Donc là l'écart entre mes deux curseurs, il m'est indiqué ici 490 microsecondes. Ici, mon cycle, c'est-à-dire ma période, elle fait 377 microsecondes. 3,77 microsecondes. Donc, et là, c'est 490 nanosecondes. Donc, je fais le rapport de 3,77 10 puissance moins 6 divisé par 490 10 puissance moins 9 exé, et donc ça va me donner 7,6. Et moi, ce que je dois trouver compte tenu de ce que je veux faire, c'est-à-dire 45 degrés, ça doit me donner un huitième de mon cercle trigonométrique, puisque mon 45 degrés correspond à un huitième de tour de mon cercle trigonométrique. Et donc si je veux être certain d'être à 45 degrés, c'est que en fait là je ne dois pas être, mes marqueurs là ne doivent pas être exactement au bon endroit. Pour que ce soit au bon endroit, il faudrait que ça fasse 3,77 divisé par 8. Ça devrait me faire 471 nanosecondes. Et si on va essayer de s'y mettre, pardon, c'est là qu'il faut aller. Non, alors 471. C'est peut-être celui-là qui est pas assez par là. Voilà, c'est peut-être ça le 45 degrés. Là, je suis à 470 nanosecondes, là, ici. Donc là, j'ai bien mes deux pointes. C'est pas toujours évident de trouver l'endroit où est la pointe de la modulation. Donc ça, c'est pour vous montrer le déphasage de mon condensateur. Et puis après, bah, je peux regarder ce qui se passe quand j'augmente ma fréquence, puisque ça, c'est un filtre passe bas. Donc, j'augmente ma fréquence. Lorsque j'augmente ma fréquence, on voit bien là que je laisse de plus en plus passer le courant. Et inversement, dans l'autre sens, bah, ça, il s'atténue de plus en plus. Et si je remplace ici ma bobine par mon condensateur, je vais avoir l'effet inverse. Alors, hop. Je vais mettre dans la bonne broche. Là, c'est raté. Allez. Et ici, hop. Voilà mon condensateur, vous voyez que ça déphase dans l'autre sens maintenant. Je change ma fréquence. Donc plus je diminue ma fréquence, plus la tension augmente, et inversement, plus j'augmente ma fréquence, plus la tension diminue. Donc ça, c'est bien un filtre passe-bas. Ça laisse passer les fréquences basses et pas les fréquences hautes. Et je peux calculer de la même manière, je vais chercher ma tension qui va bien, c'est-à-dire les 1,70 V. Allez, hop. Voilà, je réduis ça pour que ce soit plus lisible, et l'écart que j'ai entre mes deux sinusoïdes va correspondre aussi à 45 degrés, mais du coup avec un retard de 45 degrés. Et si je veux mesurer, donc là j'ai une fréquence qui fait 235 kHz, donc si, alors, hop, 235 kHz, si je passe à, donc je divise par 2, 235, ça me fait 130 kHz. Voilà, j'ai une atténuation dans l'autre sens, puisque c'est un filtre passe bas. Donc 232, ça me fait 460 kHz. 460, on va avoir une tension qui fait la moitié. 242. 1,13, on n'est pas loin, mais on est à peu près à la moitié. Et quand on multiplie par 2, donc 900 kHz, là dans les 900, ici 0,626 par rapport aux 2,40 V. Donc là, on arrive donc à nos 6 décibels. Voilà, donc on a vu le déphasage et les différentes atténuations. Et on voit bien toujours le déphasage introduit ici par mon condensateur. Voilà, sur ce, eh bien, bonne soirée à tous et à la semaine prochaine. Bye bye.